stimuler le système immunitaire pour combattre le cancer.
Oui, absolument. Ça, c'est franchement fantastique. Il faut savoir que, essentiellement, le système immunitaire est en mesure de tuer des tumeurs. Ça, on sait ça depuis longtemps. Donc, il y a des cellules de notre système immunitaire qui sont capables d'entrer en action pour pouvoir s'attaquer aux tumeurs et essayer de les tuer, de les combattre. C'est leur travail. Sauf que ce que les chercheurs savent aussi depuis très longtemps, c'est que pour déclencher cette attaque-là du système immunitaire envers certaines tumeurs, ben des fois, il faut donner un coup de pouce au système immunitaire, il faut le provoquer. Il faut lui donner un petit coup de pied dans le derrière. Alors, pour arriver à faire ça, ce que les chercheurs tentent de faire depuis des années, pas juste maintenant, ça fait longtemps qu'on sait ça, c'est d'injecter des molécules particulières, incluant des virus, incluant toutes sortes de molécules, directement dans la tumeur pour la faire clignoter un peu, pour forcer le système immunitaire à la trouver encore plus dérangeante et s'attaquer à cette tumeur-là. Mais jusqu'à maintenant, on n'a rien qui a fonctionné et qui pouvait se traduire en un traitement pour les différents types de cancers chez l'humain. On n'a pas réussi à faire ça encore. Alors, ce que des chercheurs ont réussi à faire et qui est franchement très, très emballant, c'est quoi? C'est qu'ils ont réussi à trouver une combinaison de molécules, de deux molécules, qui pourraient avoir l'effet qu'on recherche depuis si longtemps. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Ben, ils ont pris des souris et ils ont injecté des cellules tumorales sous la peau des souris à deux endroits différents de leur corps pour forcer deux tumeurs différentes à se développer à même le corps de la souris. OK? Donc ça, on part comme ça. Pourquoi? Parce qu'après ça, ils ont testé une vingtaine de molécules qui constituaient de bons candidats pour obtenir l'effet choisi. Mais ils ont voulu injecter ces molécules-là uniquement dans une des deux tumeurs. C'est comme si l'autre tumeur servait de contrôle pour voir vraiment est-ce que la tumeur injectée...
C'est un effet réel.
Exactement. Et est-ce que la tumeur injectée se comporte ou réagit au traitement en regardant l'autre tumeur comme contrôle? C'est ça qu'on voulait voir. Eh bien, parmi les 20 candidats, ils en ont identifié deux. Il y a une première molécule qui est une courte séquence d'ADN qui s'appelle le CPG. Et ils ont aussi identifié un autre candidat qui est un anticorps contre une protéine du système immunitaire qui s'appelle la OX40. Et ces deux molécules qui, injectées seules, ont absolument aucun effet sur les tumeurs. On voit pas d'effet significatif, mais lorsqu'on les injecte les deux ensemble dans la tumeur, eh bien, la tumeur en question, attache-toi bien, disparaît en 10 jours et moins.
Ben voyons.
Donc, 10 jours et moins, pouf, la tumeur n'est plus là. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est quoi? C'est que la deuxième tumeur, celle qu'on n'a jamais injectée, disparaît 20 jours plus tard. Donc, non seulement ça tue...
Parce que le système l'a reconnu, a reconnu le code?
Peut-être. Ben ça, évidemment, on va devoir essayer d'élucider le mécanisme parce que c'est comme ça qu'on va avoir la vraie pogne au niveau du traitement. Mais c'est absolument fabuleux de voir que, une tumeur secondaire qui n'était même pas injectée a aussi subi les effets de ce qui s'est produit là. Donc, est-ce que une fois stimulé, une fois qu'on a, je ne sais pas, appliqué le défibrillateur sur le système immunitaire, fait que, on va aller toutes les trouver tant qu'à être en action. On ne sait pas pourquoi, mais la deuxième tumeur a disparu en 20 jours. Mais là, évidemment, des chercheurs vont se dire, ouais, mais ça, on est quand même loin de l'humain, parce que premièrement, on est dans un rongeur, et bien souvent, des traitements trouvés chez les rongeurs pour des cancers de rongeurs. Ça a l'air super le fun pour les rongeurs, mais pas chez l'humain. C'est difficile de les transposer chez l'humain. Mais ce qui est intéressant, ce qui est surtout intéressant dans cette étude-là, c'est qu'ils ont refait cette même approche-là, mais avec des modèles de souris qui sont plus vulnérables à l'apparition de tumeurs pour un type de cancer, le cancer du sein. Donc, ils ont pris ces souris-là et ils ont isolé les souris qui avaient d'elles-mêmes développé deux tumeurs dans leur corps. Donc, au lieu d'artificiellement implanter le cancer dans ces animaux-là, on avait des animaux qui ont développé d'eux-mêmes le cancer. Et après, ils ont appliqué cette approche-là. Eh bien, là, tiens-toi bien. Non seulement l'approche fonctionne à nouveau, donc la tumeur injectée disparaît, la tumeur secondaire disparaît éventuellement aussi, mais ce qui est fabuleux, c'est que... il n'y a pas d'autres tumeurs qui réapparaissent après, même si on est dans un animal qui est plus vulnérable aux tumeurs. Donc, c'est comme si, en plus, il y a un effet préventif sur les tumeurs qui pourraient venir après. On ne les voit pas apparaître, ces tumeurs-là, après. C'est absolument fantastique. Moi, je suis vraiment emballé de cette étude-là. C'est tellement emballant qu'on est en train de tout placer pour les essais cliniques chez l'humain. Donc, c'est peut-être pas si loin que ça, cette approche-là chez l'humain. Et pourquoi c'est si emballant que ça aussi en plus, c'est que il faut savoir que ce serait peut-être une approche pour empêcher les métastases. Et je le répète, je l'ai déjà dit souvent ici en onde, les métastases, c'est ça qui tue dans les cancers et c'est ça qu'on cherche à éviter. Vraiment, les tumeurs principales, on a des solutions pour pouvoir les enlever. Ça peut être chirurgical, ça peut être radiothérapie, ça peut être chimiothérapie. Mais le fait que quelques cellules qui sont impossibles à détecter se promènent dans le système sanguin et vont aller faire des métastases partout, c'est ça qui tue. C'est ça qu'on veut empêcher. Et peut-être que là, on tient une approche pour les empêcher. Ouais, ça, c'est effectivement. Vraiment.
On va faire le lien entre le Picbois et la NFL dans un instant, tout de suite après les manchettes de l'actualité. Les Picbois et la NFL.
Oui, absolument. Ça, c'est peut-être des études ou des faits scientifiques qui pourraient aider la NFL à combattre l'effet des commotions cérébrales au niveau de ses joueurs. Et on va le dire, là, la NFL devrait faire mieux à cet effet-là parce que c'est pas un modèle de protection de ses joueurs au niveau des commotions cérébrales.
Ah, vraiment?
On s'entend. Et avec toutes les poursuites en cours contre la Ligue elle-même. Donc, peut-être que ce sera un soulagement pour les gens de la NFL de voir que des gens s'intéressent à ce qui permet au Picbois, qui est un animal particulier, qui frappe à répétition avec sa tête un arbre pour pouvoir se nourrir principalement. Mais comment il fait, lui, pour résister et ne pas avoir de dommages au cerveau? Hein? Ça, c'est ce qui est intéressant.
Ouais.
En fait, on s'intéresse déjà depuis 1976 aux adaptations du Picbois qui lui permet de résister à de tels dommages cérébraux. Mais on a réactualisé ces études-là maintenant parce que maintenant, on en sait plus sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a des commotions cérébrales. Et ce qui se passe principalement, c'est on observe chez les humains qui ont des commotions cérébrales une accumulation d'une protéine particulière qui s'appelle la protéine TAU, T-A-U. C'est une protéine qu'on retrouve à l'intérieur des neurones et qui permet de stabiliser le neurone et de maintenir sa forme et sa structure. Mais le problème, c'est quand on a un traumatisme crânien, la protéine est délogée et peut aller s'accumuler à certains endroits du cerveau, ce qui va affecter son fonctionnement. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Une commotion cérébrale. Alors, depuis 1976, on se dit, les Picbois, eux, ils n'ont pas ce problème-là, mais des chercheurs ont décidé d'en avoir le cœur net. Alors, ils ont emprunté auprès de musées des cerveaux de Picbois qui étaient conservés pour pouvoir les couper en fines tranches, les colorer et en faire l'histologie. Donc, aller voir les cellules carrément, voir qu'est-ce qui se passe dans ces cerveaux-là. Et là, énorme surprise, il y a aussi une accumulation de protéines tau dans le cerveau de plusieurs espèces de Picbois, donc qui frappent à répétition. Ça, c'est une grosse surprise parce qu'on pensait que ça n'existait même pas dans leur cerveau. Là, on voit maintenant que ça existe. Et là, évidemment, les chercheurs
Il y aurait une dégénérescence semblable chez le cerveau, quoi?
Ben non, justement,
parce que
non.
Le cerveau est différent?
Ben, c'est ça qu'on va vouloir savoir. Okay. Comment, malgré le même symptôme au niveau biochimique ou au niveau histologique qu'on retrouve chez l'humain, comment le Picbois lui fait pour ne pas avoir de dommages cellulaires alors que nous, on en a? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir que, premièrement, le Picbois, lorsqu'il frappe son arbre, il subit une force qui est 10 fois plus grande que ce qui cause des commotions cérébrales chez les joueurs de football.
Quand même.
Donc, imagine. Et il a un cou et un crâne qui sont capables de supporter jusqu'à une force de 1200 G. Imagine-toi, 1200 fois l'attraction gravitationnelle. Donc, c'est énorme. Et donc, les chercheurs arrivent à la conclusion, on a du pain sur la planche pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans son cerveau à lui. Mais une chose est certaine, il n'y a pas de raison au niveau évolutif que son crâne et son cou se soient adaptés alors que le cerveau, lui, ne se serait pas adapté. Donc là, on est à la chasse pour cette adaptation-là. C'est peut-être ça qui, éventuellement, va sauver la vie de joueur de football.
Il reste à peu près 2 minutes. Sur quel sujet tu veux aller?
Ben, écoute, allons-y pour quelque chose qui est un peu plus cocasse, l'effet des sandwichs sur l'environnement. Pourquoi pas? Un sujet qui m'a été proposé par les membres de l'équipe, d'ailleurs. Une étude au Royaume-Uni nous dit que les 11,5 milliards de sandwichs qui sont consommés annuellement au Royaume-Uni ont autant d'impact sur l'environnement que la pollution causée par les 8 millions de voitures qui circulent sur les routes du Royaume-Uni.
C'est à cause des sacs qui les amènent, quoi?
C'est à cause de tout, finalement.
Ah, oui?
Parce qu'il faut savoir que tout d'abord, l'impact vient de la production des sandwichs, la transformation de plusieurs aliments qui font partie de la composition du sandwich, la nécessité de conserver ces sandwichs-là au frais, l'emballage, le transport. Les pires sandwichs chez lesquels, c'est tous ceux qui contiennent des produits du porc, donc ceux qui contiennent du bacon, du jambon, de la saucisse, ceux qui contiennent du jambon, ceux qui qui contiennent des crevettes. Et le pire de tout, c'est le sandwich déjeuner œuf bacon saucisse qui a le même impact sur l'environnement qu'une voiture qui roule pendant 19 km. Imagine-toi, quand c'est même énorme. Alors, ce que les chercheurs...
L'empreinte environnementale de notre réalisateur DJ Passion est épouvantable.
Est épouvantable, hein? Alors, c'est le meilleur, juste pour que vous ayez une idée, c'est quoi? C'est un sandwich jambon fromage préparé à la maison. Donc, on élimine un paquet d'étapes qui auraient une empreinte écologique. Et les chercheurs, en terminant, qu'est-ce qu'ils proposent? D'adoucir les règles concernant les dates de péremption. Parce que si on repousse les dates de péremption et qu'on peut conserver les sandwichs plus longtemps, imaginez, on pourrait économiser l'équivalent de 2000 tonnes de déchets par année.
C'est énorme.
Ça serait énorme au niveau de l'environnement. Donc, quand vous prenez vos sandwichs, là, pensez-y en fin de semaine.